A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Mehdi Kotbi est né pauvre dans un coin du Maroc. Il est aujourd'hui l'ami des puissants et crèche pas loin de la plus belle avenue du monde à Paris. L'homme qui m'intrigue en sol majeur aujourd'hui est une chance pour nos oreilles. C'est l'occasion d'entendre le parcours exceptionnel d'un petit gars de Takadoum qui a défié le fameux Mektoub. Ce boulimique de l'amour s'est rabiboché avec sa terre natale au point d'inventer dans son œuvre d'artiste peintre une langue arabe qui vous noie, qui vous plonge, qui vous encercle dans un verset coranique, une sensation mille et une nuits ou une mosaïque marocaine. Illusion d'optique, cette calligraphie implacable, saluée entre autres par Senghor, Derrida, Adonis et Césaire, est à découvrir du 5 au 11 avril à la Galerie Arcurial de Paris sous le titre « Mehdi Kotbi, poète des signes ». L'occasion pour nous de mettre les doigts là où il ne faut pas, avec celui qui a été nommé président de la Fondation Nationale des Musées du Royaume du Maroc. Nommé par qui? Mais par M6, cette question. Bonjour Mehdi Kotbi.
Bonjour.
Quelle est la personnalité publique, dans le domaine politique ou artistique, je ne sais pas, que vous regrettez de n'avoir pu approcher?
Il y en a beaucoup. Mais j'essaye de ne jamais regretter, puisque j'ai eu la chance de rencontrer des gens que parfois même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé les rencontrer.
Mais alors la personne qui vous a échappé?
Écoutez, il y a par exemple le poète palestinien Darwish, que je regrette beaucoup de n'avoir pas rencontré, alors que je voulais à un moment donné tout faire pour l'encontrer, car quand j'admirais quelqu'un, je m'arrangeais toujours pour trouver l'occasion de le rencontrer. Et il faut absolument que je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est très, très drôle et très amusante. Je voulais rencontrer Césaire et je ne savais pas par quel moyen. Et quand j'allais dans des dîners, je dis « Quelqu'un connaît Césaire ?» Parfois les gens me regardaient avec les yeux. Et un jour, quelqu'un me dit « Mais je connais Ina Césaire, sa fille. Je vous donne son numéro. » J'ai appelé Ina, qui m'a reçu avec beaucoup de gentillesse. Et elle m'a donné rendez-vous avec son père.
Et c'est une des mille et une de vos rencontres, cher Mehdi Kotbi. Oui, c'est un mot qui vous fait immédiatement sourire, ce mot qui est si important dans l'inconscient collectif arabo-musulman, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous l'aimez, ce mot, Mektoub?
Écoutez, c'est pas que je l'aime, c'est que je le chéris. Comment expliquer que je puisse un jour aller voir un des hommes qui était important au Maroc, qui existe toujours, qui s'appelle Ahardan, qui était ministre de la Défense nationale, et que j'aille le voir.
Alors, il faut raconter absolument cette histoire. Elle a lieu dans les années 50.
Non, les années 60.
60, vous avez une dizaine.
Ne me vieillissez pas.
Vous êtes un jeune homme éternel, vous le savez. Vous avez une dizaine d'années à ce moment-là. Ça, c'est vrai, vous êtes haut comme trois pommes.
Absolument.
Et vous avez repéré dans ce coin. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment à Takadoum, qui est un ghetto près de Rabat.
Non, vous avez tout à fait raison, c'était à Takadoum, mais je voulais simplement corriger un petit point. Je n'ai pas à repérer. J'étais à la recherche de la manière d'éviter les coups de mon père, puisque j'étais le seul garçon, et les autres enfants n'ont pas pu vivre. Et mes parents ont adopté une jeune fille qui était leurs yeux, qui était leur reine, tout pour mon père et ma mère. Et moi, j'étais pas grand-chose. Et mon père voulait absolument m'enfermer toujours à la maison. Et quand j'arrivais à m'échapper, je partais toute la journée. Et au retour, j'avais toujours peur de la violence de mon père. Et je me suis assis parce que j'ai vu une belle voiture.
Une Ford Mustang.
Ah oui, ça c'est. Et c'est à Takadoum, en effet.
Très rare dans les années 50, dans le Maroc des années 50.
Des années 60.
60,
plutôt.
Je tiens à vous. Non,
absolument.
Mais je ne sais pas pourquoi. J'aime bien le Maroc des années 50.
J'insiste beaucoup sur les années 60 parce que, absolument, vous avez tout à fait raison. Dans les années 60, c'était très rare. Mais il avait cette belle Ford Mustang
Donc ministre de la Défense à l'époque.
Ah oui, qui très, le ministre de la Défense, c'était quelqu'un de très important. Et je vais le voir, je l'ai amusé. Je lui ai demandé de trouver un travail pour ma sœur, cette sœur adoptive, car je me suis dit que c'était la seule façon d'acheter la paix et la considération de mes parents.
Comment il réagit ?
Ah, je l'ai amusé parce qu'il était avec sa femme. Il m'a raconté plus tard en me disant, parce que je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es intéressé à moi ? Et il me disait, parce que tu étais le seul garçon qui est venu me voir pour me demander un travail pour quelqu'un d'autre et non pas me demander de l'argent comme les petits enfants de l'époque qui venaient tous qui demandaient une pièce de monnaie. Donc ça, ça l'a beaucoup impressionné. Et immédiatement, bien évidemment, il m'a donné rendez-vous le lendemain.
Et ça peut-être, ça vous a inspiré votre définition à vous de ce qu'on appelle le mektoub, c'est-à-dire qu'il faut forcer la porte du destin.
La question, le destin s'ouvre à moi.
Voilà. La question en sol majeur étant, de quoi se souviennent véritablement vos 7 ans, Mehdi Kotbi ?
Écoutez, ça me rappelle le quartier de Takadoum où je courais quand on m'envoyait faire une course. Je suis un peu ému parce que ça me retourne en arrière. C'est assez étonnant.
La voix d'Oum Kaltoum, la pluie sur les tôles.
Écoutez, je vois tellement de choses. Je vois à la fois aussi des compteurs. Il y avait une grande surface. On appelle ça l'halqa. Un endroit où les gens étaient autour d'un homme, un conteur. Et j'adorais les conteurs. Et quand j'étais là-bas, j'essayais de m'échapper pour m'asseoir et voir les miracles que ces gens pouvaient faire avec les mots.
Car effectivement, vous le disiez un peu tout à l'heure, vous êtes tout de suite un enfant mal aimé, Mehdi Kotbi, parce que vous êtes un enfant, ce qu'on peut appeler un enfant illégitime.
Écoutez, mais je me demande si ce n'est pas la meilleure chose qui me soit arrivée.
Oui, mais il faut raconter ce que ça veut dire qu'être un enfant né hors mariage dans
Écoutez,
ces années-là.
Écoutez, je suis né hors mariage. Mon père et ma mère se sont connus chez le frère de mon père. Et apparemment, ils se sont plu. Et de cette union qui n'était pas légitimée par que ce soit... Une demande aux parents de ma mère, parce que ma mère a été mise à la porte par son père. Ils se sont connus. Il n'y avait pas à l'époque ni préservatif, ni quoi que ce soit. Et donc, je suis né. Et là, je pense que le calvaire a commencé pour mes parents, puisque tout le monde voulait les rejeter, même son frère à lui, en disant « je ne peux pas accepter d'avoir une femme qui n'est pas mariée et qui a un enfant ».
Donc vous devenez l'enfant du malheur, l'enfant du péché.
Alors l'enfant du péché, en effet, mais ils se sont rendus compte qu'une fois où les autres enfants sont arrivés, qu'ils sont morts. Ils sont morts, bien évidemment, parce qu'à l'époque, la tuberculose faisait des ravages chez nous. Et vu que mes parents n'ont pas eu la chance ni de lire, ni d'écrire, car la lecture donne une ouverture exceptionnelle, ils croyaient à ce que les gens pouvaient leur dire. Et les gens leur disaient, mais écoutez, si vous n'avez pas eu d'enfant, si tous ces enfants meurent maintenant, c'est à cause de lui. Alors voilà, donc je crois que...
Donc ils partent voir un guérisseur, par exemple, avec vous.
Ça veut dire qu'ils sont allés voir d'abord beaucoup de guérisseurs, beaucoup de faiseurs de miracles. Et un jour, ils sont allés à Casa, parce qu'on leur avait conseillé une sorte d'infki. Et qui m'a brûlé le haut de mon crâne. Et je pensais que mon crâne allait exploser.
Pour donc, en fait. C'est pour. Exorciser votre âme d'enfant maudit.
Voilà, et d'exercer surtout, d'enlever la malédiction que je portais avec moi ou sur moi. Et donc, paraît-il qu'il a découvert qu'au-dessus de ma tête, il y avait ce cheveu qui était la source même du malheur de mes parents.
Alors vous vous êtes évidemment questionné sur même l'enfance de votre propre père à vous, Mehdi Kotbi,
qui a été dans l'incapacité de devenir un père aimant. Qu'est-ce que vous comprenez sur la petite enfance de votre père? Il y a une scène traumatique que vous racontez.
Oui, je pense que il s'est rendu compte, est-ce qu'il a vu ou pas, que son père s'est fait assassiner par des personnes pas très loin, parce que c'était à la campagne. Ça veut dire qu'il a vécu dans la violence. Il n'a jamais su s'en débarrasser au point que la violence est devenue son langage.
C'est un petit orphelin, il perd sa mère assez jeune.
Il est élevé
par sa grand-mère qui elle-même disparaît lorsqu'il a
à peine 5 ans ou 6 ans.
Et il y a une scène terrible.
Il a gardé, il a pris dans la main le linceul de sa grand-mère car il ne pouvait pas imaginer sa vie sans elle. Donc je veux dire que c'est un
homme... Il est resté agrippé au corps mort de sa grand-mère.
Ah oui, il ne voulait plus le lâcher. Il a fallu des grandes personnes pour le prendre, lui plaquer les mains pour pouvoir enterrer sa grand-mère. Et d'un coup, il s'est trouvé d'un coup perdu.
Et donc il est dans l'incapacité d'être donc ce père aimant. À 9 ans, vous, Mehdi Kotbi, dans ce Maroc des années 60, donc, vous êtes victime régulièrement des supplices de la part de vos parents et un beau jour, vous avalez du détergent avec la ferme intention de disparaître de la terre. Et puis le destin, ce mot, ce fameux mot, étant entre vos mains finalement, on peut aussi appeler ça l'instinct de survie, je ne sais pas. Vous voilà, grâce à cette grande première rencontre que vous esquissiez tout à l'heure, c'est-à-dire avec le ministre Marjoubi à Erdan, vous voilà inscrit au lycée militaire de Kenitra. C'est l'élite, hein, en général, qui est inscrite dans ce lycée-là. C'est une expérience mitigée, parce qu'en fait, vous n'êtes pas du tout formaté pour y rester dans ce lycée. Vous allez vous enfuir. Mais le destin est lancé. Votre désir, votre besoin immédiat, c'est en fait d'exister aux yeux des autres. Et la première fois que vous allez y arriver, c'est en peignant.
C'est incroyable. Je n'avais jamais connu ni les couleurs, ni la peinture, ni la musique, ni la lecture. Puis voilà que on me plonge dans un milieu qui m'était étranger ou un milieu que j'avais admiré. Mais admiré derrière les murs, parce que je n'avais pas accès. Et d'un coup, je me suis trouvé avec des enfants de ministres et j'étais tellement insupportable parce que j'étais tellement nerveux, parce que je ne pouvais pas tenir, j'étais instable, car il me manquait cette chose essentielle qui est l'ancrage, l'amour, je ne l'avais pas. Ça se reflétait aussi dans les résultats de mes cours parce que j'étais absolument très très mauvais à l'école. Et puis en étant mauvais, cette école qui était une école d'élite, un lycée d'élite, les enfants les meilleurs faisaient du judo, faisaient des scrims. Et les enfants les plus mauvais n'avaient que le choix entre deux possibilités. Soit faire du jardinage, soit du scoutisme. Et j'ai choisi scoutisme parce que je me suis dit, vu que j'étais puni tous les week-ends, et je n'avais pas le droit de sortir. Alors moi, ça va me permettre de sortir. Et puis voilà que le sous-lieutenant nous amène dans un espace pour nous dire, bah voilà, il faut que votre local soit plus beau que celui des autres. Et comme vous avez pu constater, je suis d'une inconscience absolue sans réfléchir. Personne n'osait prendre les pinceaux. J'ai pris les pinceaux et d'un coup, je me suis trouvé emporté. Et je n'étais réveillé que par des « ah, oh » derrière moi. Ça m'a réveillé, je regardais derrière moi et d'un coup, je vois que tout ce petit groupe était en train de regarder vers ma direction. À ce moment-là, j'ai reculé et d'un coup, qu'est-ce que je vois? Un tigre. J'étais capable. C'est-à-dire que le miracle s'est produit. Savoir faire quelque chose que eux ne savaient pas faire. Et ce jour-là, mon existence a été totalement modifiée. Son chemin, c'est-à-dire un vrai tigre est rentré en moi.
C'est joli. Alors avec ce réflexe de inconscient, comme vous dites, de survie, Mehdi, qui vous pousse à aller régulièrement vers les autres, par une suite de hasards et de belles rencontres, vous rentrez à l'école des Beaux-Arts de Rabat, où vous allez faire votre apprentissage. Et puis en 69, vous avez donc 16 ans, vous arrivez en France, c'est tout un périple, hein, faut raconter, vous le racontez bien d'ailleurs dans Palette d'une vie. Vous arrivez en France, vous avez cette phrase d'ailleurs, vous dites « Je n'ai pas quitté le Maroc, j'ai fui ce que j'étais ». La question qui tue dans ce Maroc-là, et peut-être même dans le Maroc contemporain, c'est « Vous êtes le fils de qui ?» La France de mai 68, vous y êtes ? Vous y êtes quasiment à un an, elle est encore là, l'esprit est encore là, dans les fourrés, on va dire, et vous vivez une sorte de libération de vous-même dans cette France que vous découvrez.
Ah, vous touchez un point essentiel dans mon existence. J'arrive dans un pays que je ne connaissais pas. Voyez, si vous me disiez, vous êtes né quand, je vous dirais, je suis né à Toulouse en 1969. Quand je suis arrivé à Toulouse, c'était une nouvelle naissance.
Dans le sud de la France.
Dans le sud de la France. Une renaissance, vraiment. Parce que là, d'abord, ce que les gens donnaient de l'amour.
Les portes s'ouvrent dans le sud de la France, alors qu'à Paris, c'est plus compliqué. Hein.
Écoutez. Et on me prouvait que des femmes, que je plaisais à des femmes. Imaginez, c'est-à-dire que votre existence commence réellement à avoir un sens. Mmh. Et d'un coup, ma vie transformée, elle est devenue petit à petit colorée et souriante. Malgré les difficultés financières, je n'ai jamais eu faim. On ne m'a jamais demandé d'où je venais. On ne m'a jamais demandé qui étaient mes parents. Et c'est vrai que c'était un changement total, radical.
Alors vous qui vous fringuez à l'époque comme Vigon, qu'on a reçu en sol majeur.
Écoutez, j'aimerais beaucoup le retrouver parce qu'il m'a fait rêver aussi.
Donc vous étiez en patte def, etc.
Absolument.
Et donc vous ne détestiez pas un certain James Brown pour rimer avec Vigon.
Pourquoi, ah oui, pourquoi James Brown? Parce que j'adore la soul musique en général m'a toujours parlé. C'était quelque chose qui éveillait mes sens, qui éveillait mon corps. One, two, three, ho!
Sur RFI et sur la piste de danse en sol majeur avec un certain James Brown, Mehdi. Vous savez danser, vous aussi hein?
Je ne sais pas si je sais danser, mais au moins mon corps répond au rythme et à la voix de James Brown.
Et ça vous est arrivé de danser pas loin de lui?
Ce n'est pas que j'ai dansé pas loin de lui, j'ai eu la chance d'assister à une soirée privée où il est venu chanter. Là aussi, c'était la réalisation d'un rêve. J'avais envie de toucher James Brown. Je l'ai touché, je l'ai côtoyé. C'était un moment de bonheur absolu.
Voilà, c'est comme si vous étiez en ce moment entre le Maroc, un Maroc en patte def, et une France provençale et hippie de notre artiste peintre né au moins deux fois dans sa vie de Mehdi Kotbi.
Alif, da, jim, da, ha, waw. Ha, ta, Sophia. Dans quelle langue dites-vous votre alphabet?
Je dis mon alphabet en français d'abord.
D'abord.
Oui, j'insiste beaucoup parce que ce français m'a nourri. Cette langue de Molière a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je suis un homme de reconnaissance.
Vous l'avez appris comment, le français?
Écoutez, l'anecdote, c'est toujours plein d'anecdotes. C'est interminable, les anecdotes. J'avais une jeune femme que j'avais croisée dans ma rue à moi, qui est rue Peyrolière à Toulouse. Cette jeune femme s'appelait Anne, que tout le monde courtisait. Je la croise, elle me dit bonjour Midi, je lui dis bonjour Anne. Elle me dit qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis c'est ma rue, j'habite là. Elle m'a dit mais moi aussi, tu veux venir chez moi? Je lui dis avec plaisir. Donc on a monté, je crois que c'était un étage ou deux. Et j'avais une chevelure énorme. Et à l'époque, bien évidemment, il n'y avait pas beaucoup de frisés avec des cheveux doux. Elle a pris un peigne, elle a commencé à me coiffer. Et je commence à m'approcher, elle prend son doigt, elle me repousse, elle me dit « Es-tu capable d'être discret ?» Et j'ai bien évidemment immédiatement un sourire s'est esquissé sur mon visage. On descend, on rentre dans le café, et là, il y avait un silence. Et j'ai un ami qui vient, qui me dit « Dis donc, tu es avec Anne ?» Je dis « Oui. Où ça ?» Ben, je lui dis avec son accent en plus « Où ça ?» Je lui dis « Chez elle. » C'est pas possible. Raconte. Je dis, écoute, j'ai voulu l'embrasser. Elle m'a dit, es-tu capable d'être discret? J'ai pas compris. Elle m'a dit, mais tu es un con. Ça veut dire simplement que tu ne pouvais pas en parler aux autres. Et ce jour-là, j'avais pris la décision ferme d'apprendre la langue pour ne jamais laisser échapper des moments merveilleux comme ça.
Très joli, monsieur. Anecdote. Cela dit, l'alphabet arabe, il a eu quel pouvoir durant votre enfance?
Écoutez, j'avais un père qui m'obligeait à une lecture sans comprendre, ni connaître, ni déchiffrer l'arabe. Bien sûr, je connaissais les lettres. J'apprenais les lettres.
Mais c'était pour la lecture du Coran ou pas?
Non, pas du tout. C'était d'abord un cahier scolaire.
D'accord.
Et je voyageais avec les formes des lettres.
Mais à quel moment vous perdez votre langue arabe?
Ah, écoutez, dès que je suis arrivé à Toulouse, déjà aux Beaux-Arts, il n'y avait pas beaucoup de Maghrébins à l'époque, où ils étaient très rares. Donc je n'avais aucune possibilité de parler arabe. Donc je ne parlais que français. Et petit à petit, je me suis délaissé de cette langue, qui a été une langue de souffrance pour moi, dans ma jeunesse, bien évidemment.
Et donc de cette culture arabe aussi, vous avez voulu vous débarrasser de tout ce manteau premier lié à un passé douloureux?
Oui, j'en ai gardé comme Kaltoum. C'est très drôle, Kaltoum, et j'étais ému parce que vous avez, tout à fait au début, j'ai eu les larmes aux yeux, comme vous avez pu constater, de me replonger dans cette voix, la seule voix qui me faisait rêver à l'époque.
Alors c'est drôle parce qu'aujourd'hui, quand on regarde vos tableaux, Mehdi Kotbi, notamment avec cette exposition parisienne, Mehdi Kotbi, poète des signes, c'est son titre. On voit dans ces fameux tableaux des signes arabes qui forment à l'infini des entrelacs finement brodés de mille et une couleurs. C'est un peu comme une overdose d'écriture arabe, vous qui avez voulu vous en débarrasser de cette langue.
Vous avez tout à fait raison, car je ne suis moi-même qu'une fois où j'ai assumé mon passé et ma culture. Et de ne rien me refuser de ce que je suis.
Mais ce n'était pas un complexe d'identité, ce refus de soi. Ce n'était pas lié à ça, c'était juste lié à cette page d'enfance.
Non, c'était lié à mon enfance, c'est tout, pas du tout. La preuve, c'est que j'ai changé de prénom de Mohamed à Mehdi. Donc c'était la même chose, c'était le nom du prophète toujours, mais simplement, à l'époque, j'avais envie de me rebaptiser moi-même, de choisir le prénom qui pouvait être le mieux prononcé et qui me convenait.
Dans vos tableaux, il n'y a pas un millimètre de vide.
Je déteste le vide. Je suis toujours à la recherche de remplir mon existence. Peut-être un peu moins maintenant. Parce que j'en ai, comme vous avez dit, une overdose. Je connais tellement de gens aujourd'hui. Et dans mes tableaux, j'ai besoin. N'oubliez pas que j'ai ce passé du tapis que ma mère faisait. et vu que les nœuds du tapis, pour construire et fabriquer et concevoir un tapis, c'est que les nœuds sont les uns sur les autres. N'oubliez jamais cette partie de mon enfance qui m'a marqué quand je revenais de l'école et de voir ma mère en train de tisser ses tapis.
Donc c'est-à-dire que quand on regarde, on peut avoir la sensation de reconnaître, alors je ne suis pas arabophone, mais peut-être certains arabophones peuvent déceler un mot arabe, un poème arabe, un verset peut-être coranique, une sensation, mille et une nuits peut-être, je ne sais pas. Vous, quand vous plongez vos propres yeux dans vos tableaux à vous, vous êtes dans les tapis maternels, notamment. Ah,
absolument, d'ailleurs, vous ne pouvez rien déchiffrer, vous pouvez trouver par hasard un mot. En fin de compte, j'ai désécrit l'écriture. J'ai voulu, en fin de compte, comme maintenant mon retour au Maroc, c'est un peu idéaliser mon écriture. J'avais envie de retrouver un autre langage en étant moi-même, mais un langage que j'aime et qui m'aime.
Oui. C'est pas le sens des mots qui vous intéresse.
Ah, il n'y a aucun sens linguistique. La lettre est vidée de son sens linguistique que l'aspect esthétique qui demeure, rythme et lumière. C'est ça qui demeure dans mon travail.
Pourquoi ce goût pour l'abstraction, Mehdi Kotbi ?
Je ne sais pas.
Vous qui avez dessiné un tigre, vous avez commencé votre carrière d'artiste peintre en faisant du figuratif.
Mais vous, n'oubliez jamais, quand j'avais eu mon diplôme, j'étais le plus jeune candidat en France à l'avoir eu, et mon professeur me disait, Mehdi, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, redeviens toi-même. Et redevenir moi-même était mes premiers tableaux, figurez-vous, après le tigre, étaient des signes arabes, c'était des tableaux arabes, les premiers tableaux que j'ai réalisés. C'est-à-dire que j'étais fasciné par le langage, j'étais fasciné par ce qui peut permettre aux gens d'échanger. Je n'oublierai jamais ce mot de André-Pierre de Mandiargue ou Senghor lui-même qui me disait « Votre œuvre est comme un champ déjà labouré, on jette une graine, un mot, et ça fleurit. »
Racontez-nous cette œuvre monumentale qui va faire partie de votre exposition, une œuvre qui s'intitule « Regard sur le tapis ».
Alors, je veux simplement, c'est pas « Regard sur le tapis », c'est « Le regard sur le tapis », il existe deux peintures, mais 104 peintures de 50 sur 50, qui reprend un peu le passé avec les éliges.
Avec les ?
Les éliges. Des petits carreaux qu'on met chez nous qui s'appellent zelige.
Les mosaïques.
Les mosaïques, exactement. Et en même temps, retrouver mosaïque et tapis. C'est essentiel. Comme vous savez, nous sommes maintenant vers une... Je suis vers une pente ascendante. J'ai besoin de retrouver un peu le passé.
En le réécrivant, ce passé.
Mais je le réécris, bien
parce
évidemment, constamment.
J'ai cette image de vous, enfant, dessinant inconsciemment une forme qui va devenir un tigre. Vous êtes dans une forme d'inconscience quand vous prenez vos pinceaux pour écrire des signes qui semblent s'apparenter à l'alphabet arabe.
Écrire,
vous êtes dans l'inconscience.
Écrire, peindre, c'est le langage de l'inconscient. Et j'essaye de transcrire à la fois ce passé, de revenir pour me réconcilier. Mais en même temps, quand on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie avec les autres, puisque je me suis réconcilié avec mon père.
Ah oui ? Vous êtes réconcilié ?
Ah, complètement.
Vous lui avez dit que vous étiez réconcilié ? Que vous lui aviez, d'une certaine manière, pardonné ?
Bah écoutez, à force, simplement l'idée d'aller le voir, de lui rendre visite, de prendre soin de lui, c'est une réconciliation.
En tout cas, vous, Mehdi Kotbi, le petit Marocain invisible, vous êtes devenu aujourd'hui celui qu'on voit, celui qu'il faut connaître, celui qu'on escorte, le temps d'un poème par exemple. Et sur la route de votre fameux Mektoub, mille et une nuits de rencontres avec notamment, je vais sortir juste trois noms du chapeau, Césaire, Adonis et Senghor.
La faiblesse du cœur est sainte. Ah, tu crois que je ne l'ai pas aimé. Ma négresse blonde d'huile de palme à la taille de plume. Cuisse de loutre en surprise et de neige du Kilimandjaro. Sein de rizières mûres et de collines d'acacia sous le vent d'est. N'olivée aux bras de boa, aux lèvres de serpent minute. N'olivée aux yeux de constellation, point de besoin de lune, pas de tam-tam.
أؤخر رجلا وأقدم أخرى مثل غيري كلا سأمضي أمهد دربا أتنفس أشتف ألبس هذا الرحيل بين شعري والمستحيل.
Parmi moi, de moi-même, à moi-même, hors toute constellation, à mes mains serrées seulement le rare hoquet d'un ultime spasme délirant, vibre mot, j'aurai chance hors du labyrinthe, plus long, plus large, vibre, en onde de plus en plus serrée, en lasso pour me prendre, en corde pour me pendre.
F. F comme famille d'élection.
Oui, la famille, ça a du bon, parfois, quand on se la fabrique soi-même, Lady Godby.
Oui, mais écoutez, je veux revenir quand même sur ces deux voix.
Trois.
Trois voix.
Césaire, Adonis, Sangor. Sangor, je me le garde.
Je suis très ému parce que ça me replonge dans un passé qui est toujours présent. Les premiers mots de Césaire que j'ai lus, ce sont des mots qui avaient constitué un tremblement de terre dans mon intérieur.
Vous vous souvenez de ces mots ?
Vous savez, j'ai parfois des pertes de mémoire au niveau des mots.
Vous avez l'air d'insulter le ciel, là, tout à coup, avec votre main.
Surtout sur l'occupation, sur...
La colonisation. Le discours sur le colonialisme.
Oui, contre le colonialisme. C'était les premiers mots. Et d'un coup, j'ai découvert, à travers lui, la force des mots. Encore plus fort que n'importe quel canon et n'importe quel fusil. Le fusil ou le canon, ils font un boom, ils peuvent détruire. Mais le mot reste. Le mot se prolonge à travers les années, à travers les siècles.
Alors, un de vos trophées, puisqu'on parle de Césaire, c'est d'avoir été le seul peintre avec Picasso à avoir accompagné un poème de Césaire d'une de vos peintures. Ça donne d'ailleurs un très beau livre qui s'intitule « Ausculter le dédale ». Quel titre incroyable. Quelle affinité il y a, vous diriez, entre la poésie de Césaire et votre peinture à vous ?
Je ne pourrais vous répondre par les mots qu'il lui-même m'a dit. Quand je l'ai rencontré, je lui dis « Ah, monsieur Césaire, je vous admire. » C'est banal, bien évidemment. Et lui me répond « Ah, votre travail m'a parlé. »
Alors, je suis allée chez vous, hein, je ne le cache pas aux auditeurs, donc à Paris, dans le très très chic 8e arrondissement, Mehdi Godby, et vous m'avez montré un autre beau livre avec vos calligraphies ponctuées de textes écrits par les plus grands intellectuels du monde. De mémoire comme ça, moi aussi j'ai un peu de mémoire. Yves Bonnefoy, Philippe Solers, donc Adonis, l'immense poète syrien, libanais, je ne sais pas comment il faut dire, Édouard Glissant, l'immense Édouard Glissant, Tahar Ben Jelloun, etc. C'est-à-dire que votre culot, ce culot dont on parle depuis le début, et votre talent aussi, ont séduit les grands de ce monde. Racontez-nous dans quelles circonstances vous êtes devenu un proche, je crois qu'on peut dire comme ça, de Léopold Sédar Senghor.
Écoutez, c'est très drôle, mais il faut aussi que je vous raconte cette histoire.
Alors, pas
pour
trop,
vous dire
hein,
le
même.
Hasard.
Ah oui, mais vous savez, hein,
je vais être bref.
Mille et une nuits, on n'a pas le temps.
Écoutez, j'ai pris un avion pour aller à New York, j'avais une exposition. C'était en 84. Dans cet avion, je m'installe, je commence une discussion. La personne qui est à ma droite, on discute, il m'invite à passer le week-end après New York. Il me donne sa poésie. Je trouve qu'elle était très agréable à lire. Je rentre chez moi, le téléphone sonne. C'était un éditeur qui s'appelle Marc Pessin. Et Marc Pessin me dit, écoutez, je cherche à vous avoir depuis pas mal de temps. Je suis éditeur. Senghor a aimé ce que vous faites. Et il a très envie de faire un livre avec vous.
Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, il y a un tête-à-tête qui s'installe entre vous. Mais pourquoi l'immense Léopold Sédar Senghor s'intéresse au petit gars de Takadoum ?
Je n'ai jamais trouvé une réponse à cette question que moi-même, je me suis posée. En me disant, mais attendez, c'est comme si un enfant à qui on offre plein de sucreries. Et d'un coup, il dit, mais d'où ça vient ? D'où ça tombe ? C'est exactement ça.
Vous pensez que ce que vous incarniez, c'est-à-dire une sorte de survie, une sorte de réel finalement, c'est ce qui l'intéressait chez vous ?
Je n'ai jamais su. Je sais qu'il aimait beaucoup mon propre travail parce qu'il est venu personnellement voir mon exposition. Je l'ai même, miracle, je l'ai même reçu à dîner chez moi à l'époque. Je crois qu'il avait un peu aussi, il adorait, il aimait beaucoup le Maroc. Et puis en même temps, il aimait cette écriture qu'il appelait une écriture magique, comme des talismans. Mais si vous permettez, je peux revenir sur l'anecdote juste avant, et je vous promets, après j'arrête mes anecdotes. Cet éditeur qui est Marc Pessin, quand il m'a appelé, je lui ai dit, écoutez, avec bonheur, je rêverais de rencontrer Senghor, mais je lui ai dit, est-ce que moi je peux vous envoyer des poèmes d'un poète, un jeune poète, qui s'appelle Dominique de Villepin. Et donc...
Ça nous avait échappé, ça, tiens.
Et Dominique de Villepin a édité son premier livre avec moi.
Non, vous êtes un poème à vous tout seul, hein, Mehdi Kotbi, parce que finalement, ce qu'on comprend, c'est que vous avez plusieurs chapelles, finalement, celle de l'artistique, celle du cœur, sans doute, mais ça nourrit pas toujours son homme. Donc vous êtes aussi un homme de réseau, vous venez de l'avouer finalement d'une certaine manière. Vous êtes proche des hommes politiques, quelle que soit leur sensibilité, des hommes de gauche, des hommes de droite. Et vous avez d'ailleurs frayé autant avec un François Mitterrand hier qu'avec un M6 aujourd'hui. Vous recherchez quoi auprès des puissants ?
La vérité. Peut-être que...
Quelle vérité ?
La vérité, celle de la mienne, bien évidemment. La mienne est celle de ne pas chercher les puissants, mais peut-être les puissants cherchent. Certains puissants cherchent peut-être ma compagnie.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez
pourquoi
de si particulier ?
Écoutez, je me pose souvent la question. Oui. Je continue encore à me poser la question, mais apparemment, je ne suis pas quelqu'un d'antipathique. Je n'ai jamais cherché à profiter.
En même temps, avec les puissants, c'est quand même du donnant-donnant, non ?
Vous savez, la relation amicale qu'on tisse avec un individu qui soit là où il est, ce n'est pas la fonction qui m'importe, mais l'individu. La preuve, c'est que je suis allé trouver François Hollande pour lui dire « J'aimerais beaucoup que vous puissiez venir parler de culture. » Je suis allé le trouver parce que je lui reste toujours reconnaissant. D'avoir eu sa sympathie, son côté amical, d'ailleurs...
C'est-à-dire que vous ne pouvez exister qu'aux yeux des puissants aussi. Vous
mais faites pas du tout, mais
des
pas du
yeux
tout.
Noirs.
Non. Mais parce que c'est
mais
pas
vous êtes
vrai.
Fasciné par le pouvoir.
Écoutez, je ne sais pas si je suis fasciné par le pouvoir, mais le pouvoir facilite les choses.
Alors justement, M6 vous a nommé à la tête de la Fondation nationale des musées du Maroc. On parlait de Mahmoud Darwish tout à l'heure, ce grand poète palestinien qui peut-être œuvrait pour la paix à travers la poésie. Est-ce que vous pensez que l'art, avec un grand A, Mehdi Kotbi, peut guider un pays comme le Maroc ? Est-ce que vous pensez, par exemple, que les surréalistes que vous allez faire venir au Maroc bientôt pourrait aider à ce que la femme marocaine soit traitée en égale de l'homme.
Je vous ai peut-être mal informé, c'est une exposition d'impressionnistes. Ah. C'est des impressionnistes avec le musée d'Orsay, qui pour la première fois traverse la Méditerranée, pour être exposé à Rabat.
Magnifique.
C'est un rêve aussi. C'est grâce à Madame Macron. Madame Macron est venue voir une exposition Picasso à Rabat, lors d'une visite qu'elle a faite avec le président de la République, j'ai fait sa première rencontre. Elle était extrêmement fascinée par la manière dont le parcours a été fait de cette exposition Picasso. Et elle m'a dit, mais c'est magnifique. Et je lui ai dit comme ça rapidement, madame, est-ce que vous pensez qu'on pouvait m'aider à voir les impressionnistes au Maroc ? Et bien évidemment, elle m'a aidé. Et je mets à la disposition de tous les Marocains. C'est ça la démocratisation, partagée. La culture,
mais est-ce que l'art
partager
peut,
la lumière.
Peut aider justement à une modernisation de la société, notamment marocaine.
Écoutez, je vous avoue sincèrement, j'y crois profondément que le règne du roi actuel est en train de moderniser toute la société et donner la place aux femmes. C'est ma conviction personnelle.
C'est en même temps le commandant des croyants, donc il a des principes aussi à respecter en tant que tel.
Oui, mais comme vous pouvez le constater aujourd'hui, les choses avancent, puisqu'il m'a demandé d'organiser une biennale à Rabat, et cette biennale sera consacrée qu'aux femmes.
Vous aimez la culture, vous aimez le stand-up, vous aimez le cinéma, alors on y va.
And the names are Mr. and Mrs. Victor Laszlo.
But why my name, Richard?
Because you're getting on that plane.
Oh, I don't understand. What about you?
I'm staying here with him till the plane gets safely away.
No, Richard, no. What has happened to you? Last night
we said a great many things. You said I was to do the thinking for both of us. Well, I've done a lot of it since then. It all adds up to one thing. You're getting on that plane with Victor where you belong.
But, Richard, no, I...
Now, you've got to listen to me. You have any idea what you'd have to look forward to if you stayed here? 9 chances out of 10, we'd both wind up at a concentration camp. Isn't that true, Louis?
I'm afraid Major Strasser would insist.
You're saying this only to make me go.
I'm saying it because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Yeah. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life.
Elle comme lampe d'Aladin.
Dans les cours de récréation, c'était de la violence à tout va et tout. Et si je vous parle de ça maintenant, c'est parce que je m'en rends compte. C'est pas bien la violence. Je vous jure, j'ai bien réfléchi dans ma loge tout à l'heure. C'est pas bien la violence, hein, quand même. Il faudrait que la violence se rétracte sur elle-même, telle une libellule. Il faudrait que les jeunes de mon quartier se donnent la main et fasse une ronde tout autour de la terre. I believe I can fly. I just need to be to fly away. I just need to fit to everything. Après, je me rappelle plus des paroles.
Alors, j'espère que vous savez toujours faire le thé à la menthe, Mehdi Kotbi, et que vous savez toujours bien frotter la lampe d'Aladin. Vous avez vu, il y a quelques génies qui peuvent en sortir. Alors, il y en a deux, là, à l'instant, qui ont de la gueule. Mais la question pour vous, c'est Humphrey Bogart ou Jamel Debbouze?
Écoutez, là, c'est un dilemme, car j'aime Humphrey Bogart. Il a marqué ma vie.
Vous l'avez rencontré aussi?
Non, jamais, malheureusement. Mais j'ai adoré sa voix. Il avait un naturel tel qu'il vous emporte. Il ne jouait pas. C'était son langage au quotidien. Et puis j'adore Jamel Debbouze, sa générosité aussi. Parce que faire rire les autres, c'est une fierté pour moi, Jamel Debbouze. Et puis on a une relation d'amitié avec lui par contre.
Oui, j'imagine.
Oui, absolument. J'ai une relation d'amitié avec lui. Vous faites
du stand-up bientôt ou pas?
Pardon?
Vous allez faire du stand-up vous-même?
Non. Non, je ne fais jamais les choses que je ne sais pas ou que je ne maîtrise pas.
L'autre question, c'est Afrique blanche ou Afrique noire?
J'aime le noir. Le noir qui a inspiré tous les mouvements qui ont contribué à la modernité de l'art.
Parce qu'il y a un de vos tableaux qui s'intitule « Terre d'Afrique ». Je vais essayer de décrire, mais c'est compliqué. Il y a 4 bandes. Bleu, rouge, vert, jaune, et chaque bande est traversée dans sa longueur par une forme serpentueuse marron. Et évidemment, le tout est calligraphié avec votre alphabet arabe réécrit, Mehdi Kotbi. Vous savez, comme moi, la césure mentale, pour ne pas parler du racisme qui existe entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Vous êtes où, vous, dans cette Afrique-là?
C'est très drôle, quand je prenais tout à l'heure le métro pour venir vous voir, en me disant, elle va me poser une question, est-ce que j'ai connu le racisme dans ma vie? Je me suis rendu compte que le racisme est la quintessence du manque de savoir et manque de connaissances.
Oui, on est au courant, mais vous, le petit musulman, qui avez d'ailleurs été recueilli tout jeune hein, dans cette France... Par des hommes d'église, etc.
Que je n'oublierai jamais.
Donc, avez vécu cette France des années 2000 avec cette voix contre le port du voile, le port du niqab, avec sa déchéance de la nationalité?
Ben, je vais peut-être vous étonner. D'abord la liberté. On laisse la liberté aux gens de s'habiller comme ils veulent, qu'on leur fiche la paix.
Donc vous êtes contre cette loi?
Ah, au fond de moi-même, incontestablement, car j'ai trouvé que le voile enlaidit. Je me rappelle de ma mère, qui n'avait pas de voile, mais qui était si belle, qui était si croyante. Et je ne pense pas que les signes ostentatoires de voile pourraient dire que celui-là est plus croyant que l'autre. Et puis je trouve que le voile enlaidit les femmes, alors que les femmes en général sont porteuses de beauté.
Oui, mais vous disiez être pour la liberté.
Mais c'est là où je suis en pleine contradiction avec moi-même. Car aujourd'hui, ces signaux-là, dans certains cas, sont une fermeture de l'esprit.
L'Ave Maria ou Ayat al-Kursi, qui est le verset du trône dans le Coran?
Oh, écoutez, là, vous me posez, j'adore Ave Maria. C'est un des moments les plus émouvants de mon existence aussi. J'adore l'écouter.
Vous êtes loin de l'islam aujourd'hui?
Je fais ma prière tous les jours. Ah. Et je suis très, très, très heureux d'avoir un ancrage. Ceci ne m'empêche pas de vous dire que quand j'étais à Jérusalem il y a plusieurs années, je suis allé prier à la fois à l'église Sainte-Anne, je suis allé prier à la mosquée Al-Aqsa, et j'étais aussi devant le mur des Lamentations. Et je ne trouvais aucune différence parce que j'ai entendu la même voix dans ces trois lieux.
Français ou marocain?
Complètement français, complètement marocain.
mon général. Une dernière question, Mehdi Kotbi. Est-ce que vous savez si vos ancêtres sont plutôt arabes ou plutôt juifs?
Écoutez, ils sont à la fois juifs, arabes, musulmans et romains. Un jour, je rencontre un responsable politique belge et qui me disait, mais comment voulez-vous, on n'a rien à voir la Belgique avec le Maroc, car nous, nos ancêtres sont romains. Mais je lui dis, mais nous aussi. Vous savez que le Maroc dispose d'une des plus belles collections de bronze romain au monde. Ça prouve aussi notre enracinement. La même que celle des Européens. Mais il faut simplement que les Européens comprennent et se donnent le temps de nous comprendre de l'autre côté de la Méditerranée.
En sol majeur, @rfi.fr.
À découvrir du 5 au 11 avril à la Galerie Arcurial de Paris sous le titre Mehdi Kotbi, poète des signes, votre nouvelle exposition. Cher Mehdi, merci de cette belle visite entre deux avions, encore que vous n'avez eu qu'une avenue, la plus belle du monde, à traverser pour nous rejoindre. Sol majeur avec Facebook, Twitter et puis derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Juliette Bro, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve et on vous espère la semaine prochaine avec le réalisateur ukrainien Igor Minaïev. À la semaine prochaine.